Vous suivez les programmes de la fréquence qui prend la paix et le développement Radio Ndekeluka. Il est 13h, le journal avec Martial Steven Betisinga. Martial, bonjour.
Nina Verdania Moudi, bonjour et bonjour à tous. À la une de cette édition, un accident de la route fait 10 morts et plusieurs blessés proches de Bamingui. C'est un camion semi-remorque qui a quitté Bangui hier pour Ndélé. Des précisions dans quelques instants. Puis les incendies continuent de réduire l'élan de certains commerçants à Bangui. Cette boutique dont trois remplies de marchandises ont pris feu dans la nuit d'hier à 6K1. Les pertes sont estimées à des dizaines de millions de francs CFA. 13 janvier 2023, cela fait 2 ans aujourd'hui que la CPC a tenté de marcher sur Bangui. Aujourd'hui, certaines localités qui étaient devenues des champs de bataille renouent avec le calme. Football, tournoi de l'UNIFAC des moins de 17 ans. Pour leur premier match hier, les Fauves de Bazou Bangui ont perdu 4-0 face aux Lions indomptables du Cameroun.
Nous ouvrons ce journal martial avec cet accident de la route survenu hier proche de Bamingui dans la préfecture de Bamingui-Bangoran.
Oui, Verdiane, l'on déplore une dizaine de morts et plusieurs blessés. C'est un camion semi-remorque qui a quitté Bangui hier pour Ndélé. Des précisions de Nathan, une information de Nathan de Saint-Stéphane Ngombe rendue par Emmanuel Samboulé.
C'est à 18 km de la ville de Bamingui que l'accident a eu lieu. La carrosserie s'est détachée de la remorque et a renversé tous les passagers. Des blessés et morts sont enregistrés à l'issue de cet accident. Radiabé Abdel, un habitant de Bamingui, donne les premiers bilans de cet accident.
Les bilans de cet accident, c'était 17 blessés, plus 10 morts. Les cadavres, maintenant, ils sont au niveau de Bamingui. La famille se partage les corps entre eux pour enterrer. Les blessures, maintenant, les véhicules des WTS et l'ambulance d'Ndélé, maintenant, ils sont en train de transporter les blessures à Ndélé, prendre leur soin.
Les blessés sont transférés à l'hôpital du district de Ndélé pour des soins. Docteur Assil Nyamputu fait le point de leur état sanitaire.
Hier, vers 18h, 19h, il y a eu un accident à 19 km de Bamingui. Nous avons envoyé une équipe avec l'ambulance à Bamingui et donc l'équipe est partie porter secours aux accidentés. Donc, pour l'instant, tous les cas qui sont arrivés à l'hôpital sont stabilisés. Il y a un cas grave, mais qui est en cours de stabilisation.
Les accidents sont un peu récurrents ces derniers temps sur les routes qui relient des villes de la RCA à cause de la dégradation des routes et de la défaillance des véhicules qui empruntent ces voies.
Un autre drame, cette boutique dont trois remplies de marchandises ont pris feu au quartier Sika1 à Bangui.
L'incendie s'est déclenché dans la nuit d'hier à aujourd'hui, précisément à partir d'1h du matin. L'origine du feu reste inconnue. Astrid de Bonheur Kolinga était ce matin sur les lieux du drame.
À côté du National Hotel, des jeunes gens et certains propriétaires des boutiques fouillent dans le résidu des boutiques carbonisées. Au total, 7 boutiques sont brûlées, dont 4 bien remplies de marchandises. Marie Benoît, une habitante du secteur, raconte comment les faits se sont déroulés.
L'incendie a démarré vers 1h du matin parce que moi j'ai entendu seulement les cris au feu, au feu. On est sorti et on a vu que déjà, tout est déjà brûlé. On ne peut pas se passer. On appelle les gens du sapeur-pompier avec le problème. Là, ils ont dit qu'il n'y a pas d'eau.
Fred Yalitebe est le propriétaire d'une mini-pharmacie. Il a tout perdu.
Le montant des produits pharmaceutiques que j'ai, on peut estimer aux environs de plus de 3 millions. Et tous mes diplômes. Donc en tout cas, tout ce que j'ai est parti ensemble. J'ai tout perdu. Jusqu'alors, là, on n'a pas encore pu déterminer ce qui est à l'origine parce qu'on n'a pas d'énergie, d'électricité.
Le charbon est tout ce qui reste de la boutique du père de Justin.
Il y a notre boutique qui est dans cet entendu-là aussi. Oui, ça faisait presque 16 à 17 millions. Le vieux, c'est un infirme. Donc, pour ne pas qu'il soit là au bord de la route, donc en ce moment, il est à la maison. Mais il se porte bien.
Pour Adoum Dobaï, chef de quartier Sika Asana, seuls les résultats d'enquête de la police pourront dire exactement ce qui a été à l'origine de cet incendie.
Nous attendons pour le moment que la police puisse venir ouvrir une enquête et puis c'est à partir du résultat de l'enquête de la police que ça va nous permettre un peu de comprendre ce qui s'est passé réellement.
Les pertes sont estimées à des dizaines de millions.
Reportage de Astrid de Bonheur Kolingué et noté aussi ceci, une évolution concernant la disparition d'un corps à la morgue de l'hôpital de l'Amitié. Vous avez suivi l'information hier sur nos ondes. Une famille qui devrait enterrer le corps d'un de ses membres n'avait pas pu car le cadavre n'a pas été retrouvé. Cela avait entraîné un mouvement de mécontentement. Aujourd'hui, le directeur de l'hôpital parle d'une confusion. Une autre famille se serait trompée pour faire sortir le corps dont il a été question hier. Nous vous donnons plus de précisions dans nos prochaines éditions.
Deux ans après la tentative de coup d'État de la CPC, la vie a repris son cours normal dans certaines localités qui ont été sur l'itinéraire de ces rebelles.
C'est le cas du village Voudambala, la porte d'entrée nord de la capitale Bangui, où des violents combats avaient opposé l'armée aux éléments de la CPC. Aujourd'hui, ce village retrouve le calme et la sécurité est renforcée. Reportage de Nathan de Saint-Stéphane Ngombe.
Un marigot à l'entrée de Voudambala, tout le long, des femmes, enfants et jeunes exercent leurs activités. Lavage de motos, lessive et vaisselle. L'on ne constate pas les traces du combat du 13 janvier 2021 qui avait secoué au même moment les extrémités nord et sud de la ville de Bangui. Un peu plus à l'intérieur du village, tout le monde vague paisiblement à ses activités. Un signe de quiétude. Chapi, dans son salon de coiffure, indique que la sécurité est garantie.
La sécurité constante à Voudambala a mis fin à certains désordres. Les gens font leur activité champêtre dans la quiétude, tout se passe dans la paix.
Philippe, un passant souligne qu'il circule librement.
Nous nous promenons en sécurité jusqu'à une heure tardive. Il suffit juste de respecter l'heure du couvre-feu fixé.
Zoulou, un boucher, attend des clients sous son hangar. Il est ému de voir Voudambala, autrefois désert, reprendre son cours normal.
Voudambala, qui était inhabité, par la grâce de Dieu, a retrouvé son cours de vie. Désormais, les FACAP assurent notre sécurité, mais nous avons un problème d'eau et la route est impraticable.
Pharaon, un conducteur de moto-taxi, affirme qu'ils peuvent exercer leurs activités sans peur.
On travaille jusqu'à 23h. Il n'y a même pas un cas de braquage à Voudambala. Les FACAP patrouillent le secteur, il n'y a rien à craindre.
Roger Sérémalé, le chef de Voudambala, brosse l'état de la situation sécuritaire dans son secteur.
Nous avons organisé les enfants afin qu'ils puissent établir l'autodéfense. Ils sillonnent matin et soir. On n'a pas baissé bras. Aujourd'hui, on a la paix parce qu'on les a refoulés. Après qu'ils sont repartis, il y a la paix jusqu'à présent là. On ne sent plus le mouvement de ces rebelles-là à Voudambala.
Depuis l'avènement du putsch manqué de la CPC du 13 janvier 2021, la présence militaire est constatée à Voudambala. Les habitants souhaitent la pérennisation et le renforcement de cette présence des forces de défense et de sécurité. Tout comme Voudambala, certaines localités transformées autrefois en champs de bataille renouent avec la quiétude, mais le regain de violence de ces derniers temps, surtout avec les attaques rebelles contre des positions de FACA, constitue une inquiétude.
À Bria de la Haute-Côte, les conséquences de la saison sèche sont déjà visibles sur les occupants du site des déplacés du PK3.
Environ 10 000 personnes vulnérables vivent encore sur ce site des déplacés internes dans la ville de Bria. Selon nos informations, les femmes et les enfants, population majoritaire du site PK3, traversent une situation humanitaire précaire en ce moment et attendent du gouvernement et des acteurs humanitaires une solution pour leur bien-être. Kasmala Mustapha Abria nous fait le point.
Le quotidien des occupants du site PK3 à Bria est marqué par des effets néfastes de cette saison sèche à travers un vent violent, une forte fraîcheur la nuit et une chaleur ardente le jour. Plusieurs dizaines de ménages défavorisés restent impuissants devant ce qu'ils qualifient de changement climatique dans la ville. Romaric Pagoyotogo, coordonnateur du site.
Il y a fallu, et les enfants tous aussi beaucoup, et ce que nous pouvons aussi sur le site. Il y a d'autres maladies qui attaquent les gens sans qu'on puisse savoir quel genre de maladie. C'est pour cela qu'on se pose la question de savoir.
La plainte est presque sur tous les lèvres ici sur le site. Colette Pounemati, ménagère résidente du bloc 9, se dit dépassée par ce phénomène. Elle souhaite un accompagnement du gouvernement et des acteurs humanitaires pour leur permettre de regagner leur quartier d'origine.
Ici, on va au champ pour chercher le fagot, pour chercher le papayer, pour vivre. Nous demandons aux autorités, au président, pour nous aider de sortir dans le site.
Pour prévenir de probables cas d'incendie, un comité de surveillance est mis en place pour contraindre les différents ménages à une bonne manipulation du feu. Bonaventure Ngidakpa, un des surveillants, voit en cette initiative une solution pour garantir la sécurité sur le site.
Nous avons pris des décisions pour qu'on n'allume plus de feu sur le site à partir de 9h jusqu'à 17h pour éviter des cas d'incendie. Cette année, il n'y a pas de dégâts parce que la mesure est ferme.
Pour assurer l'autosuffisance alimentaire, ces déplacés pratiquent à majorité l'agriculture, le maraîchage et la vente des fagots. Selon le coordonnateur du site, malgré les rations alimentaires qui leur sont distribuées mensuellement par certaines ONG, les difficultés d'avoir régulièrement de quoi à manger demeurent toujours. Bria,
Gasmala Mustapha, Radio Ndekeluka.
Autre fait d'actualité, c'est le lancement hier à Bangui de la semaine de la jeunesse.
Cette semaine a été lancée par le ministre de la Jeunesse sur le thème « Jeunesse face aux enjeux des élections municipales et régionales ». Autour de cette thématique, le gouvernement attend des jeunes centrafricains des recommandations concrètes pour la réussite des élections locales à venir au sortir de cette semaine de réflexion qui prend fin le 18 janvier 2023. Le point avec François Koussimi-Palato.
C'est devant plus de 200 jeunes centrafricains, des leaders d'associations ainsi que quelques autorités locales que le ministre de la Jeunesse a annoncé l'ouverture de la semaine de la jeunesse. Des appels à la vigilance, à la prise de conscience et au sens du patriotisme sont des points qu'on peut noter dans le discours du ministre de la Jeunesse. Dr Loïc Moulambo Sambi, président du comité d'organisation de la semaine de la jeunesse.
Depuis 1988, ces élections n'ont jamais eu lieu. La majorité du corps électoral aujourd'hui est jeune. Alors c'est pour nous l'occasion d'informer ces jeunes pour qu'ils puissent être capables de s'impliquer et de participer en toute force dans ces élections.
Sosten Gama, un jeune, n'apprécie pas la thématique retenue pour la célébration de la semaine de la jeunesse.
La thématique devait centrer par exemple sur un thème comme la jeunesse et le développement comme ça. Ça va permettre aux initiateurs de pouvoir parler de l'entrepreneuriat à cette jeunesse qui est censée entreprendre pour le développement de ce pays et non la politique.
Le gouvernement centrafricain attend beaucoup de cette semaine de la jeunesse. Aristide Préon-Roboas, ministre de la jeunesse.
C'est un moment très émouvant de rappeler les souvenirs éprouvants du passé. La jeunesse doit comprendre et choisir la voie de la conquête de pouvoir par la démocratie. Il y aura des professeurs qui viendront pour expliquer l'histoire de fonctionnement des institutions. D'autres vous parleront des crises. Ça fait partie des ingrédients que nous allons amener pour nourrir cet espace de réflexion qui, à la fin, terminera par une vague de recommandations qui devrait aider le ministre de la Jeunesse à pouvoir m'appliquer et donner un langage technique à ma feuille de route.
La semaine de la jeunesse est un moment organisé en République centrafricaine chaque année afin de rendre hommage aux martyrs du 18 janvier 1979, mais aussi un moment de partage avec les jeunes autour des valeurs de la République.
À l'international, l'ancien président du Kenya, Uhuru Kenyatta, annonce un retrait ordonné des rebelles du M23 du territoire conquis dans l'est de la RDC.
Déclaration faite hier par le médiateur de ce conflit et représentant du groupe de 5 pays d'Afrique de l'Est. C'est à l'issue d'une rencontre avec les responsables du M23 dans la ville côtière kenyane de Mombasa. Le M23 indique aussi un cessez-le-feu strict. Ces retraits du M23 font suite à une décision à l'issue du sommet du 23 novembre 2022 à Luanda qui avait conclu un cessez-le-feu et le retrait du M23 des zones conquises. La page sport, une présentation de Bienvenue Bello. Bienvenue, bonjour.
Bonjour Martial, bonjour à tous.
Commençons cette page sport avec la gymnastique. Une grande activité prévue demain à Bangui pour démarrer l'année 2023.
C'est un festival de gymnastique organisé par le club Nouveau Talent qui aura lieu demain à partir de 13h à l'INGS à Bangui. Le club demande aux amoureux de cette discipline de venir massivement applaudir les jeunes talents de la RCA qui vont présenter des spectacles.
Football, démarrage aujourd'hui de la 7e édition du championnat d'Afrique des Nations en Algérie.
Le tournoi est prévu du 13 janvier au 4 février. Le Maroc, double tenant du titre, va finalement participer à cette compétition continentale de la CAF après avoir annoncé plus tôt jeudi l'annulation de sa participation en raison de la fermeture de l'espace aérien algérien aux avions marocains. Les Lions de l'Atlas ont remporté les deux derniers charnes en 2021 et 2018. La RCA va encore manquer une fois ce charne. Elle a été éliminée par le Congo-Brazzaville.
Football encore bienvenu. Les Fauves U20 ont disputé leur premier match de préparation hier au stade Barthélémy Bouganda Bangui.
Les poulains de Sébastien Gâteau ont battu les seniors du FCSES, club de deuxième division, 3-0. Les buts ont été marqués par Boris Benou, Bruni Bondadé et John Songbonjo. Le public présent apprécie le niveau des jeunes, même si la défense reste un secteur à revoir.
Moi, je trouve que c'est une très bonne prestation. Déjà, ça prouve que les enfants sont bien concentrés. Ils sont beaucoup plus motivés par la CAN qui est en train d'arriver. Juste leur faire confiance et croire ces enfants parce qu'ils ont beaucoup de talent. Et je crois qu'au minimum, c'est pourquoi pas une finale.
Les jeunes de U20 sont forts. Même SOS n'a pas pu tenir devant cette sélection. Je prie Dieu pour que cette équipe puisse faire des bonnes choses.
Le match que j'avais vu là, les fauves de U20 avaient bien joué le match. Par contre, il y a des petites erreurs. Les défenseurs ne montent pas à l'ordre.
J'ai vu qu'ils ont
ont bien joué. J'ai la conviction qu'ils vont aller à la CAN, ils vont réaliser de bons résultats et se qualifier à la Coupe du Monde.
À la Gauthier qualifié, tu étais à la Coupe du Monde.
Et puis, 20 encadreurs sportifs, dont 8 femmes, sont désormais formés dans le cadre du projet de l'Association pour le développement par le sport ADS.
Cet atelier de formation s'est déroulé du 10 au 12 janvier à l'INJS. Ce projet s'inscrit dans le cadre du programme Développement de la jeunesse centrafricaine par le sport de l'ambassade de France. C'est pour favoriser les pratiques du sport intégrant au milieu scolaire et de proximité. Prudence Yambinji, professeure d'éducation physique et sportive, l'une des participantes, revient sur les principaux thèmes abordés pendant cette session.
Plusieurs choses ont été évoquées lors de cet atelier, mais ce que nous avons retenu est celle-ci. Premièrement, la protection des droits de l'homme. Et secondo, la vulnérabilité et la valorisation du sport comme développement qui unit aussi le peuple. C'est pas seulement de rester à la maison, de garder toutes ces choses-là en soi-même, mais de mettre en œuvre, d'aller sur le terrain, faire ce qu'on nous a demandé de faire, d'être près de la population cible, à l'exemple des personnes vulnérables, les jeunes en milieu scolaire.
Fin de cette édition préparée par toute l'équipe de la rédaction. Merci pour votre fidélité d'écoute. Restez branchés pour la version Sango.